Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
Et on est ensemble jusqu'à 20h sur Europe 1 avec dans un instant le journal de Christophe Lamarre. Juste après, on ouvrira ensemble, comme tous les soirs, le débat du Club des Idées. On vous décrypte le monde qui change. Ensemble, on prend le temps de se faire son opinion. Et ce soir, le monde du travail qui subit lui aussi la crise de plein fouet. Les intentions d'embauche des cadres s'effondrent. Les chiffres sont historiques. Les entreprises hésitent à embaucher. Et ceux qui sont en poste sont plus frileux à l'idée de se bouger. On en débattra avec mes invités à partir de 19h20. Juste avant, ce sera la carte blanche du Club des Idées, avec ce soir l'écrivain Éric Emmanuel Schmitt. Mais d'abord, le point sur l'info avec Christophe Lamarre. Il est 19h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
On va devoir rester à la maison pendant les 17 prochains jours, donc on essaye de profiter à fond de ces derniers instants pour sortir, prendre un dernier verre.
C'est fini, un pays à l'arrêt, plus rien ni personne ne bouge. Le pays de Galles est maintenant totalement reconfiné pour contenir la propagation du virus.
Une partie de l'Europe est au bord de la submersion. On fera dans ce journal un tour d'horizon de ces pays où le virus accélère de plus en plus.
Nouveau revers pour le professeur Didier Raoult. L'Agence nationale du médicament refuse d'autoriser l'utilisation de l'hydroxychloroquine.
Le procès des attentats de Charlie Hebdo avec l'audition très attendue d'un témoin clé présenté comme le mentor des frères Kouachi. La présidentielle aux États-Unis. On retrouvera Xavier Yvon, bien évidemment, comme tous les soirs pour son carnet de campagne.
Et puis la route, à la veille d'un deuxième week-end de départ en vacances, nous ferons le point sur vos conditions de circulation.
Quant à vos conditions de météo, attention Anissa, il y a toujours ces orages en cours dans l'Est. Hein.
Oui, c'est une ligne orageuse en fait, hein, qui touche actuellement toutes les régions qui se trouvent le long des frontières suisses. D'Avignon à Besançon, il pleut fort, des orages accompagnés de vent. Soyez donc très prudents, je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ils avaient l'autorisation de sortir jusqu'à 19h. Les Gallois sont depuis confinés chez eux, interdiction de sortir.
Et c'est une mesure bien sûr destinée à enrayer la propagation de l'épidémie. Le Pays de Galles est donc officiellement à l'arrêt pour les 17 prochains jours. À quelques exceptions près, tout le monde doit désormais rester chez soi. Hein. Évidemment, les habitants de Cardiff, la capitale, ont voulu profiter de ces derniers instants de liberté totale. C'est le cas de Cathy et de Charlotte qui se sont offerts tout à l'heure un dernier verre en terrasse.
On est toutes les deux des mères célibataires et on va devoir rester à la maison pendant les 17 prochains jours. Donc on essaye de profiter à fond de ces derniers instants pour sortir, prendre un dernier verre. Cette fois-ci, on a eu une semaine pour se préparer, faire nos courses. Donc je pense que ça va être plus facile. Ce confinement, en tout cas, il est nécessaire parce que nous avons perdu le contrôle du virus et les chiffres sont de nouveau à la hausse. On espère en tout cas que ça va marcher si tout le monde reste à la maison. J'espère vraiment que les restrictions seront levées et qu'on pourra voir quand même un peu nos amis à Noël. On croise les doigts.
Voilà, deux Galloises confinées depuis ce soir. Elles répondaient à Anaïs Cordoba. Il y a la situation au pays de Galles, Isabelle, mais ailleurs en Europe, franchement, ce n'est guère mieux.
Oui, à tel point que l'Agence sanitaire européenne aujourd'hui parle de graves inquiétudes face à l'évolution de cette épidémie. La situation n'est plus très loin d'être dramatique même hein, chez certains de nos voisins. Et pour autant Isabelle Horry, eh bien, on ne prend pas les mêmes mesures partout. Hein.
Et non, et pourtant, le constat est sans appel. Du Danemark à la Croatie, en passant par la République tchèque, la Suisse ou la Belgique, de nombreux pays sont en train de battre tristement leurs records nationaux de nombre de contaminations. Pour autant, le dosage de mesures n'est effectivement pas le même partout. Le Pays de Galles, mais aussi l'Irlande, depuis hier, ou encore plusieurs villes au Portugal, basculent dans le reconfinement. Mais en Irlande, par exemple, les écoles restent ouvertes. En République tchèque, pays le plus atteint d'Europe, elles sont au contraire fermées pour 3 semaines et les déplacements restreints. Un couvre-feu a été mis en place ou va l'être en Slovaquie et dans certaines régions espagnoles ou italiennes. Dans la région belge de Wallonie, il vient d'être avancé à 22h. Mais les autorités nationales ne parlent pas reconfinement, alors que des experts et les fédérations d'hôpitaux l'estiment inévitable en Belgique, deuxième pays le plus contaminé du continent. Enfin, la Suède reste fidèle à sa ligne originale. Malgré la remontée des cas, le masque n'y est toujours pas obligatoire. Stockholm vient même d'assouplir les restrictions pour les seniors et les personnes fragiles en invoquant le risque de dépression nerveuse.
Merci Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 en direct donc de Bruxelles. En France, le reconfinement total n'est pour l'instant pas à l'ordre du jour, mais l'exécutif n'écarte pas cette hypothèse, même si elle reste le dernier recours. Hein.
Et le président Emmanuel Macron l'a dit lors d'une visite dans un hôpital de Pontoise, dans le Val d'Oise. Le chef de l'État fait confiance aux mesures actuelles pour faire baisser la pression sur les hôpitaux. Le reconfinement local n'est pas tabou, mais il doit rester la dernière option.
On va évaluer chaque semaine les l'efficacité des mesures prises. Et donc, au moins jusque début décembre, nous aurons tout ce qui a été annoncé par le gouvernement. Et ces mesures, de manière certaine, je peux vous le dire aujourd'hui, n'ont pas vocation à être réduites, mais elles seront peut-être renforcées si elles ne sont pas suffisamment efficaces. De deux manières, soit en s'étendant géographiquement, comme hier, soit en regardant aussi les lieux, les moments où, au fond, l'épidémie se propage le plus vite pour réduire à chaque fois ces occasions. Et on va essayer de le faire de la manière la plus ciblée. Et donc, il est trop tôt aujourd'hui pour dire si on va vers des reconfinements locaux plus larges. On va essayer à chaque fois d'aller, en quelque sorte, réduire les lieux, les moments où on a identifié que le virus circulait beaucoup.
Emmanuel Macron, il y a quelques instants, à sa sortie d'une visite dans un hôpital de Pontoise, dans le Val-d'Oise.
Europe 1, 19h04.
C'est l'un des témoins clés du procès de la tuerie de Charlie Hebdo. Peter Chérif est présenté comme le mentor des frères Kouachi.
Et son audition s'est déroulée par visioconférence, après des heures de négociations pour éviter d'avoir recours à la force, parce qu'au départ, Peter Chérif devait être entendu ce matin, il l'a finalement été cet après-midi. Et Chloé Triomphe, ce vétéran du djihad, ami d'enfance des frères Kouachi, s'est muré dans le silence.
Oui, c'est un étrange rapport de force qui s'est joué tout à l'heure devant la cour d'assises après des négociations qui ont duré toute la journée pour obtenir que Peter Chérif accepte de venir déposer devant la cour via une visioconférence. L'ami d'enfance des frères Kouachi, impliqué comme eux dans un dossier de filière de combattants vers l'Irak, ce vétéran du djihad, possible commanditaire des attentats de janvier, a donc opposé jusqu'au bout son refus de répondre aux questions. Menotté, il a d'abord prononcé des bénédictions en arabe puis en français avant de se murer ostensiblement dans le silence, en lisant un petit livre que l'on peut supposer être un livre de prière ou un Coran. Le président de la cour a bien tenté de lui lire ses déclarations en garde à vue en l'invitant à répondre, mais rien, pas un mot n'est sorti de sa bouche hormis ses paroles sur l'existence de Dieu. Et c'est donc sur ce constat d'échec que cette déposition a pris fin. Finalement, aujourd'hui, la seule confirmation que la cour a pu obtenir sur les commanditaires de ces attaques s'est résumée par la déposition ce matin de Sonia Mejri, ex-épouse d'un chef de l'État islamique, qui a confirmé qu'Amédi Coulibaly avait bien été recruté depuis la Syrie.
Chloé Triomphe en direct de la cour d'assises spéciale de Paris.
Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
Il est 19h08 et c'est la suite du journal de Christophe Lamarre. On va tout de suite partir aux États-Unis. J-11, cette fois, avant la présidentielle. Et vous le savez, tous les soirs, Europe 1 se glisse dans les pas des deux candidats à la Maison-Blanche. C'est le journal de campagne de Xavier Yvon.
I'm Joe Biden.
I'm Donald Trump.
And I approve this message.
And I approve this message.
Europe 1 live for the American elections.
Bonsoir Xavier Yvon.
Hello, bonsoir à tous.
Alors Xavier, on est au lendemain du dernier débat télévisé et c'est encore ça qui domine la campagne.
Oui, les médias américains sont encore en train de compter les points et aussi le nombre de mensonges de Donald Trump, toujours aussi phénoménal. Contrairement au premier débat, eh bien, il y a eu de la substance cette nuit puisqu'on a pu cette fois entendre les deux candidats développer leurs arguments. Sur la pandémie, ils ne sont pas surprenants. Pour Joe Biden, je cite, « un président responsable de tant de morts ne peut pas rester au pouvoir. Ce n'est pas de ma faute, c'est à cause de la Chine », a répondu Donald Trump. Mais ils ont aussi pu parler d'autres sujets moins souvent évoqués, notamment l'environnement et le changement climatique. Et là, les Américains ont pu entendre la différence fondamentale entre les deux candidats.
Vous allez fermer l'industrie pétrolière ?
Oui, je vais faire la transition énergétique.
Oh, c'est une déclaration importante.
Oui, c'est une déclaration importante parce que l'industrie du pétrole pollue de manière significative. Il faut arriver avec le temps à la remplacer par de l'énergie renouvelable.
C'est peut-être la déclaration la plus importante en termes de business. Ce qu'il dit, c'est qu'il va détruire l'industrie pétrolière. Vous vous en souviendrez, Texas ?
Le Texas, on le rappelle, un réserve pétrolière de l'Amérique et un État où les républicains ne sont plus aussi sereins.
Effectivement, on le comprend. Xavier, l'actualité de la journée chez vous, c'est aussi la signature d'un accord historique entre Israël et le Soudan sous le parrainage de Donald Trump.
Et oui, et le président américain ne se prive pas de s'en servir comme un argument de campagne. Il était tout à l'heure au téléphone avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dans le bureau ovale, devant les caméras pour s'auto-féliciter et écouter ce qu'il a demandé à son ami Bibi.
Do you think Sleepy Joe could have made this deal, baby? Sleepy Joe.
Tu crois que Joe l'endormi aurait pu obtenir cet accord, Bibi? Moi, je ne crois pas, a dit Donald Trump. Et on entend le Premier ministre israélien un peu gêné qui répond pas vraiment, probablement pour ne pas insulter l'avenir.
Effectivement. Et on termine, Xavier, avec le chiffre du jour.
Alors ça y est, on a franchi la barre des 50 millions. 50 millions d'Américains ont déjà voté, soit par correspondance, soit dans les bureaux de vote anticipés. C'est du jamais vu, ça fait déjà presque 40% du total des votes d'il y a 4 ans. Et ça veut dire que les deux candidats ont débattu hier devant une Amérique qui a en fait en grande partie exprimé son choix.
Effectivement, c'est assez troublant. L'œil de Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, le journal de campagne, c'est tous les soirs à 19h. Des rebondissements, il y en aura sans doute encore beaucoup dans cette campagne américaine. Et des rebondissements, il pourrait y en avoir aussi, Christophe, dans le dossier de la vente de l'Olympique de Marseille.
Oui, alors il faut rappeler un peu les épisodes précédents. On se souvient qu'un homme d'affaires tunisien, Mohamed Ajouri, s'était déclaré intéressé par la vente du club. Proposition rejetée par le propriétaire actuel de l'Olympique de Marseille, qui a même assigné l'acheteur potentiel en justice. Entre les deux, l'ancien boxeur Luis Acayes assure que le dossier de la vente de l'OM n'est pas clos.
Le projet, il n'est pas fini. Il est dans les tuyaux. Je sais très bien que Mourad discute avec M. Ajouri. Ils sont en contact, peut-être pas Mourad directement, mais M. Ajouri avec M. Malcourt. Pour l'instant, il faut laisser le temps au temps. Là, on est dans des jours assez noirs. Regardez bien, qu'est-ce que vous voulez acheter un club qu'on ne peut pas faire venir des supporters? On n'a pas les droits de télévision, il faut emprunter pour soulager les clubs. Non, il y a un problème en ce moment, il faut laisser passer le temps pour que tout s'arrange.
Voilà, Luis Acayes, que vous pourrez retrouver demain sur Europe 1 dans l'émission Face aux auditeurs de 20h à 21h avec Lionel Rousseau.
Et puis Christophe, il y en a qui partent en vacances dès ce soir. On jette un œil tout de suite sur vos conditions de circulation.
Le radioguidage sur Europe 1 avec les opticiens Atoll pour être sûr de bien voir aussi la nuit au volant.
La veille d'un deuxième week-end de départ en vacances de la Toussaint, on se demande s'il y a du monde sur la route. Est-ce que c'est le cas, Laura Taouchanov?
Oui, il y a beaucoup de monde sur les routes ce soir. Entre Beaune et Lyon, Fourvière sur l'autoroute A6, vous mettez 2h25 au lieu d'1h15. C'est toujours très compliqué aussi entre Chalon-sur-Saône et Tournus. Et puis, sur l'autoroute du Soleil, prévoyez des ralentissements jusqu'à Aix-en-Provence. En Ile-de-France, la soirée est classée orange dans le sens des départs. Trafic très dense sur la N118 jusqu'à Orsay. Même chose sur l'autoroute A10 avant Palaiseaux. Et puis attention, toujours aux pluies violentes, elles rallongent votre temps de parcours sur l'autoroute A64 au niveau de Tarbes. Même chose entre Lyon et Orange, avec en plus des rafales de vent.
Merci Laura Taouchanov.
Et c'était le journal de Christophe Lamar sur Europe 1. Merci Christophe, on vous souhaite un bon week-end.
Merci Isabelle.
La météo, Anissa Haddadi, et cet épisode de fortes pluies dont vous nous parlez depuis 18h.
Hein. Oui, qui se poursuit. Alors, il devrait se calmer aux alentours de 22h, mais on suit quand même ça de près. Alors, c'est une ligne orageuse, en fait, une ligne orageuse assez longue, hein, sur plusieurs kilomètres, avec une activité électrique forte, puisque nous avons eu quand même des chutes de grêle avec des belles petites billes qui sont tombées sur le nord de la ville de Montpellier. Alors actuellement, cette ligne orageuse, elle s'étend de Carpentras à Besançon, en passant par Grenoble, Chambéry, Lons-le-Saunier, Pontarlier. Actuellement, toutes ces villes connaissent des orages. Les cumuls de pluie sont importants, jusqu'à 3 semaines de pluie par endroit. Attention également au ruissellement lors de vos déplacements. Il y a du monde sur les autoroutes, il y a du monde sur les routes secondaires. Donc soyez très prudents. Cet épisode orageux devrait se calmer et il devrait nous quitter par l'est, allez, vers 22h. Demain, il fera très beau sur le sud du pays, avec en bord de Méditerranée beaucoup de soleil dès le matin. Et puis le long de la façade est, là aussi, c'est une belle journée, hein, de l'Alsace jusqu'à la Côte d'Azur. C'est sur la moitié nord que la journée sera un petit peu plus tristounette. Un ciel gris, de l'humidité avec des averses et du vent sur toute la moitié nord du pays, donc prudence. Et puis de toute façon, je vous retrouve dans le journal de 22h et dans le journal de minuit pour vous en dire un peu plus.
Et vous ne partez pas en week-end, Anissa?
Non, je reste tranquille.
Ni en vacances, donc non. On vous dit à l'heure et à lundi. Merci Anissa. À 19h14 sur Europe 1, comme tous les soirs, on ouvre maintenant le Club des idées.
Europe Soir, Isabelle Millet.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide.
C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Avec d'abord la carte blanche du jour et ce soir, on accueille l'écrivain Éric-Emmanuel Schmitt. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Alors aujourd'hui, nous sommes sous le choc évidemment d'événements terribles, des individus qui s'en prennent aux figures qui représentent la République, aux hommes, professeurs comme Samuel Paty, aux pompiers, policiers, élus politiques qui nous permettent de vivre ensemble et dont la tâche est d'apporter du secours, de l'ordre, de l'harmonie dans la société. Alors pour lutter contre ces attaques, Éric-Emmanuel Schmitt, vous avez envie ce soir de nous parler du respect.
Oui, en face de ce chaos, j'ai envie de faire un peu de philosophie, Isabelle, car le chaos existe toujours dans les esprits avant de s'incarner dans les faits. Et j'ai la conviction que la philosophie offre une hygiène de pensée nécessaire. Je souhaiterais donc réfléchir avec vous au respect, cette valeur qui est si dangereusement piétinée en ce moment.
Alors justement, c'est quoi le respect ?
Le respect s'adresse à une personne et lui reconnaît un statut différent d'un objet. On ne possède pas une personne comme un objet, on n'utilise pas une personne comme un objet, on ne tripote pas une personne comme un objet, on ne rejette pas une personne comme un objet, on ne découpe pas une personne comme un objet, on ne détruit pas une personne comme un objet. Le respect attribue un rang à part à l'être humain.
Et le respect opère-t-il des distinctions entre les êtres humains ?
Non, justement. Le respect est sans distinction. C'est ce qui constitue une de ses caractéristiques. Il considère tous les êtres humains d'une façon unique. Il ne tient pas compte de leur âge, de leur sexe, de leur couleur de cheveux ou de peau, de leur langue, de leur nationalité, de leur richesse ou de leur pauvreté. Le respect est un antiracisme, un antisexisme, un refus des exclusions de classe. Bref, le respect est universel.
Éric-Emmanuel Schmitt, à quoi nous incite le respect ?
En face d'une personne, le respect nous dicte une conduite. On n'insulte pas une personne, on ne la blesse pas, on ne la tue pas. J'ajouterais, on ne lui est pas non plus indifférent, car se comporter comme si l'autre n'existait pas constitue également une violence. Proust disait même que l'indifférence est une forme aiguë de la violence.
Ce que vous nous dites donc, c'est que le respect s'assimile à la non-violence ?
Il lui ressemble en effet, mais il ne se réduit pas à cette non-violence. Certes, le respect incite à ne pas violenter autrui, mais le respect ne s'énonce pas que de façon négative. Il se définit positivement.
De quelle façon ?
Le respect laisse de la place à l'autre et lui permet d'être différent.
Le respect est donc respect de la différence, c'est ça ?
Eh bien justement, non. Et c'est là que je voulais en venir, Isabelle. Qu'est-ce que je respecte quand je respecte l'autre ? Je respecte le même que moi. Un corps habité par une conscience. Un être fragile, car vivant et mortel, qui exerce sa liberté de penser et d'agir, parfois avec difficulté. Je respecte un être qui, comme moi, s'interroge, sait deux ou trois choses et en ignore beaucoup. Je respecte donc le même que moi en l'autre. Et c'est au nom de ce même que je vais respecter les différences.
Expliquez-nous un petit peu mieux tout ça.
Qu'avons-nous en commun ? Nous nous posons les mêmes questions. Que penser ? Que croire ? Qu'espérer ? Comment nous comporter ? Si nous partageons nos questions, nous différons sur nos réponses. Un tel aura cette fois, un autre une autre fois, un tel pas de foi du tout, un tel aura hérité de cette morale, un tel s'en sera inventé une, un tel s'inscrit dans une tradition de pensée, un tel dans une autre. Bref, nos réponses nous distinguent, nous séparent, voire nous opposent. Alors, pour nous retrouver et nous entendre, remontons à la source. Nous sommes identiques en question et différents en réponse. C'est donc au nom de notre fraternité de questions que nous devons nous montrer tolérants pour les diverses réponses. Frères en question, nous devons nous montrer fraternels avec des frères qui répondent différemment. Le respect, c'est une conscience aiguë de notre liberté, de notre fragilité et de nos doutes. L'intégriste, le fanatique, l'intolérant, c'est celui qui n'a que des réponses et plus de questions.
Donc ce que vous venez de faire avec nous ce soir, c'est d'affirmer finalement votre humanisme.
Exactement, Isabelle. L'humanisme n'est pas le partage d'une certitude unique, mais le partage des questions.
Merci beaucoup, Éric-Emmanuel Schmitt, pour cette carte blanche qui nous donne beaucoup à méditer, à philosopher. On vous retrouve très bientôt, on l'espère, sur Europe 1.
Merci.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
Il est 19h22 et on ouvre ensemble le Club des idées d'Europe 1. Alors que les indicateurs sanitaires sont, vous le savez, extrêmement préoccupants, que les deux tiers des Français doivent respecter à partir de ce soir un couvre-feu nocturne et que l'on redoute le retour d'un confinement localisé ou généralisé. Les Français, en tout cas, n'ont pas le moral et les entreprises non plus. Et là aussi, plusieurs indicateurs nous alertent, notamment cette baisse historique du recrutement des cadres. 30 à 40% d'embauches en moins, c'est énorme. On en parle ce soir avec mes invités dans ce studio. Gilles Gâteau, le directeur général de l'APEC, l'Agence pour l'emploi des cadres. Laurence Breton-Cueny, DRH au groupe AFNOR et vice-présidente de l'Association nationale des DRH. Et Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail. Bonsoir à tous les trois. Et merci d'être là ce soir. Je voudrais, si vous le voulez bien, qu'on écoute d'abord ensemble le ministre de l'Économie. Il était ce matin sur Europe 1, Bruno Le Maire, qui confirme que la fin d'année sera compliquée.
Enfin, je ne veux pas vous dire que les indicateurs aujourd'hui pour le quatrième trimestre sont tous au vert, ce serait faux. Je vous dis que nous risquons fort d'avoir un chiffre de croissance négatif. Mais je vois aussi la qualité de nos industries. Je vois notre capacité d'innovation. Et je sais qu'avec les investissements que nous sommes en train de faire en 2022, vous aurez une économie française plus compétitive et plus décarbonée. Il y a un bout du tunnel. Et au bout de ce tunnel, nous souhaitons avoir une France plus forte, plus juste, plus décarbonée, et nous allons y arriver.
Bruno Le Maire, ce matin sur Europe 1 avec Sonia Mabrouk, la croissance à l'épreuve du Covid, et elle n'est pas la seule. Hein. L'APEC, le Pôle emploi des cadres, publie donc des chiffres. 2020, année terrible, hein, Gilles Gâteau. Votre association a ajusté ses prévisions annuelles et le constat est sans appel, une baisse que vous qualifiez même d'historique. Hein.
Oui, les cadres, l'emploi des cadres était extrêmement dynamique ces dernières années. On avait une prévision pour 2020 historique dans le sens positif. On attendait 300 000 recrutements et nous avons actualisé cette enquête au mois de septembre avec encore beaucoup d'incertitudes. C'est pour ça qu'on donne une fourchette, -30 à -40 % par rapport à cette prévision, c'est-à-dire 170 000 à 200 000 embauches au lieu des 300 000 attendus. C'est sans précédent sur une année. C'est la brutalité surtout qui caractérise cela. On a vu des baisses à peu près équivalentes au moment de la première guerre du Golfe au début des années 90, mais ça s'était étalé sur 4 années et pas aussi brutalement.
D'autant que là, vous le disiez, cette fois-ci, on sortait d'une année 2019 qui était très bonne. Hein.
Qui a été un record historique, 281 000 embauches de cadres cette année-là.
Laurence Breton-Cueny, je rappelle que vous êtes vice-présidente de l'Association nationale des DRH. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez, vous, au quotidien ?
Bonjour à tous. Bien entendu qu'on le constate, puisque aujourd'hui, certains d'entre nous, enfin, il y a 3 situations particulières dans nos entreprises. Une petite partie qui ont bénéficié de la crise, une grosse partie dont nous faisons souvent partie qui ont des soucis pour boucler leur fin d'année, et la 3e catégorie d'entreprises qui, elle, va très, très, très mal. Donc, voilà. Donc, on a 3 situations particulières. La 2e catégorie, c'est là où la majeure partie d'entre nous nous trouvons. Donc, ça s'explique par des gels de recrutement. Voilà, un certain nombre d'actions pour effectivement réussir à conserver les organisations et les entreprises. Bien entendu, les entreprises de la 3e partie, elles sont bien entendu dans des cas des plans sociaux où ça va très très mal.
J'ai donc lu c'est que vrai le nombre de cadres inscrits à Pôle emploi sans activité a augmenté de 17% entre début janvier et fin août, c'est ça hein ? Gilles Gâteau. Bernard Vivier, président de l'Institut supérieur du travail, ce phénomène, est-ce que c'est une tendance qui se confirme uniquement chez les cadres ou aussi chez les ingénieurs, chez les techniciens ? Est-ce qu'on est autant impacté à Bac plus 2 qu'à Bac plus 5 ?
Alors, le mot cadre est un mot très difficile
oui,
à cerner.
C'est vrai.
Il n'y a pas dans le Code du travail de définition du cadre. Historiquement, ça remonte à 1947, c'est très conventionnel, c'est-à-dire dans les conventions collectives. Les cadres, ce sont des personnes qui exercent des responsabilités d'encadrement ou qui ont une expertise poussée. Donc des ingénieurs, des cadres, des techniciens, des agents de maîtrise font partie de la fonction encadrement. La population cadre dans notre pays a beaucoup grandi. Hein. C'est pratiquement 4 millions de personnes, 25 fois de plus qu'il y a 20 ans. C'est une population qui s'est beaucoup féminisée. Encore 38% à peu près de femmes, c'est nettement en dessous de ce que l'on attendrait, mais ça monte. Et puis, c'est également une population très qualifiée. Aujourd'hui, plus de la moitié des cadres ont un niveau d'études égal ou supérieur à 5 années après le baccalauréat. Donc, c'est une population très importante. Pour répondre à votre question...
Est-ce que tout le monde est impacté ?
Tout le monde est impacté. Monsieur le maire nous parle d'un tunnel, d'un bout du tunnel espéré pour l'économie. L'expression « bout du tunnel » est dangereuse. Oui. On se souvient d'un homme politique, il y a très longtemps, qui avait parlé du bout du tunnel concernant le chômage à 500 000 chômeurs. Donc c'est quelque chose, évidemment, de très, très préoccupant. En 2021, et notre ministre de l'économie parle de 2022, 2021 va être une catastrophe. Le taux de chômage va frôler 10,5%, 11%, ça va être considérable. Alors que les années passées, nous étions en train de réduire, et de façon très significative, le chômage en France. Et un objectif de 7-8% de chômage en 2022 n'était pas inatteignable dans toutes les populations. Aujourd'hui, c'est hors de question.
On poursuit ce débat dans un tout petit instant. Les grandes voix, restez avec nous sur Europe 1.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
19h31 et c'est la suite de votre club des idées d'Europe 1. On continue de parler de la chute historique du recrutement des cadres avec toujours en studio à mes côtés Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail, Gilles Gâteau, directeur de l'APEC, Laurence Breton-Cueny, DRH au groupe AFNOR, vice-présidente de l'Association nationale des DRH. Alors cette baisse des embauches, 30 à 40% en moins, c'est énorme, on en parlait à l'instant. Je voulais juste savoir, Gilles Gâteau, est-ce que cette chute sans précédent, elle fragilise plutôt les jeunes diplômés ou plutôt les seniors ?
Alors, exactement les jeunes diplômés, tout simplement pour la raison qui a été indiquée tout à l'heure, la première manifestation de la crise, c'est le ralentissement ou le gel des embauches. Donc ça concerne plutôt ceux qui entrent dans l'entreprise plus que ceux qui y sont déjà, et donc beaucoup les jeunes diplômés. À l'APEC, si on regarde les offres d'emploi sur apec.fr, c'est un bon indicateur parce qu'à peu près la moitié des recrutements, 47%, de cadres en France passent par une offre déposée sur apec.fr. Ces offres ont baissé depuis le début de l'année jusqu'à fin septembre de 44% pour celles qui sont accessibles aux débutants, c'est-à-dire aux jeunes qui sortent de l'école et de l'université, contre moins 30% en moyenne pour les cadres plus confirmés. Donc c'est un choc pour tout le monde, mais il est particulièrement fort pour les jeunes diplômés, alors même que ces dernières années, ils étaient courtisés par les entreprises avant même parfois le moment de leur diplôme. C'était vraiment la cible de toutes les marques employeurs pour attirer les jeunes diplômés. Donc le retournement là pour eux est très brutal.
Et ça concerne aussi bien les grands groupes, les entreprises de taille intermédiaire que les TPE, les PME, Bernard Vivier ?
Oui. Tout le monde est concerné. Les TPE, PME sont particulièrement frappés. Mais Gilles Gâteau vient de l'indiquer, en 2018-2019, tous les voyants étaient au vert et les entreprises faisaient des efforts pour valoriser leur image, ce qu'on appelle la marque employeur, et puis proposer des carrières bien soignées, la formation, l'intégration, l'évolution professionnelle, avec des cadres, et notamment des jeunes cadres, qui ont un regard qui change sur l'entreprise. C'est une banalité de le répéter. On n'entre pas aujourd'hui dans une entreprise quand on a 18, 20, 25 ans comme on entrait il y a 30 ou 40 ans. On n'y fera pas carrière toute sa vie. On n'y décrochera pas sa médaille du travail pour donner une image. Par contre, on a besoin d'autonomie, on a besoin de mieux concilier la vie professionnelle et la vie privée. On a besoin de mieux valoriser son expertise métier. On est davantage nomade et en même temps animé d'un regard sur la société, sur l'entreprise, qui n'est pas exactement celle des générations passées. Et les entreprises doivent s'adapter à cela, qu'elles soient grandes ou petites.
C'est ce que vous constatez, vous aussi, dans le cadre de votre travail, Laurence Breton-Cueny ?
Alors, déjà,
je rappelle que vous êtes vice-présidente de l'Association nationale des DRH et vous-même DRH. Hein.
Oui, tout à fait. Bien entendu, les premiers impactés, ce sont les jeunes, puisqu'on a vu que certains d'entre eux, même avec de bons diplômes comme des diplômes d'ingénieur, ne trouvaient pas de poste à cette rentrée. Donc, ce qui est un phénomène vraiment très particulier, ce qui est problématique parce que quand la reprise arrivera, il y aura effectivement les autres jeunes qui arriveront. C'est déjà arrivé par le passé, notamment au Japon, où ils parlaient de génération sacrifiée. Donc, pour que ce ne soit pas le cas, on se rend bien compte que dans le plan de relance, France Relance, il y a un certain nombre de dispositifs justement pour y pallier, pour éviter finalement qu'on laisse de côté toute une partie de jeunes bien formés qui arrivent sur le marché de l'emploi.
Est-ce qu'il y a des régions particulièrement impactées, Gilles Gâteau, par cette baisse des recrutements des cadres ?
Alors, toutes les régions le sont, plus ou moins. Évidemment, c'est en Île-de-France que l'impact est le plus fort. C'est là que se concentre beaucoup de l'emploi cadre, et notamment de l'emploi cadre dans les états-majors d'entreprise, qu'on appelle parfois les fonctions support, qui souffrent plus, on va dire, que les fonctions de production en ce moment. Ce que je voudrais dire sur les jeunes diplômés, parce qu'il faut un message un peu, qui ne soit pas tout à fait
oui, désespérant. Essayez d'être positif, s'il vous plaît, ce soir.
Mais il faut être positif, parce que s'il y a moins d'embauches, il y a encore des embauches. Et il ne faut pas croire que cette baisse de l'activité économique et des embauches a fait disparaître les tensions ou les difficultés qui peuvent exister dans le recrutement. Et dans l'enquête dont sont tirés ces chiffres que nous avons fait au mois de septembre, il y a 6 entreprises sur 10 qui ont l'intention de recruter qui s'attendent à rencontrer des difficultés à recruter. Donc, il y a des opportunités, il y aura moins de mobilité de la part des cadres déjà en activité. Ça peut donner des opportunités plus grandes pour ceux qui rentrent sur le marché du travail ou pour ceux qui ont perdu un emploi et qui sont aujourd'hui en recherche d'emploi.
Ouais, c'est ça, on imagine que les cadres en poste, ils hésitent plus aujourd'hui à changer d'entreprise dans le contexte actuel.
Hein. Alors, c'est ce qu'on constate à l'APEC, parce que l'APEC n'est pas tout à fait le pôle emploi des cadres, la moitié des clients de l'APEC, tout à fait, mais je me permets de le dire, la moitié sont des cadres qui sont en activité, et puis il y a des cadres en recherche d'emploi et des jeunes diplômés, donc on a une bonne vue finalement sur l'ensemble des compétences cadres et du marché cadre dans le pays.
Et alors Bernard Vivier, est-ce qu'il y a cette pénurie de recrutement, on imagine qu'elle ne concerne pas forcément tous les secteurs, quels sont les plus impactés? On a entendu que l'aéronautique en particulier souffrait beaucoup, l'automobile aussi.
Oui, bien sûr, ces secteurs-là. Et on peut, si on veut rester dans la ligne plutôt positive, constructive, d'indiquer des secteurs qui continuent à recruter et qui ont besoin et qui cherchent.
Alors, on vous écoute.
Des commerciaux dans la construction, des ingénieurs, des chefs de projet dans les activités de l'énergie renouvelable, dans les assurances ou les banques, tous les métiers du chiffre, la digitalisation, l'automatisation des postes qui révolutionnent les métiers, donc les emplois. Et puis, tout ce qui est le traitement des données, l'exploitation des données là, dans toutes les entreprises. Donc, on voit bien que les évolutions technologiques détruisent des emplois, mais en créent aussi, et ce sont les jeunes tout particulièrement qui sont porteurs de ces compétences.
Alors, imaginons qu'aujourd'hui, vous ayez face à vous un jeune de 16 ans, de 18 ans, vous lui diriez quoi aujourd'hui, Laurence Breton-Cueny?
Alors, d'une part, de garder le moral, parce qu'il faut être très positif et de commencer par prendre soin de soi. Quand on subit des contraintes, c'est une contrainte, c'est un événement extérieur, on n'y peut rien. Il faut garder confiance, prendre soin de soi et avoir une énergie positive. Que l'on cherche un travail pour la première fois ou que l'on perde son travail aujourd'hui, parce que beaucoup le perdent, parce que pour retrouver un travail, il faut être en santé. Donc il faut aussi veiller à son équilibre vie personnelle, c'est important pour retrouver. Après, la recherche d'emploi, c'est quelque chose de très méticuleux avec des règles. Bon, moi je fais partie d'une association et nos quartiers ont des talents et donc on a l'habitude avec des jeunes. La recherche d'emploi, c'est comme une quête avec un certain nombre d'étapes. Petit 1, si on a perdu son emploi, il faut faire son deuil. On n'y peut rien, c'est comme ça et on doit rebondir. L'année prochaine, on va davantage savoir s'il n'y a pas de reconfinement, c'est-à-dire à mi-janvier, quand on aura tous fait les comptes, on saura si on peut recruter à nouveau. Donc 1, c'est une quête. On commence à tout bien faire et surtout se faire aider. Pour les cadres à la LEPEC, pour les jeunes, les autres jeunes qui ne sont pas cadres, aller dans les missions locales, se faire aider à rédiger des CV. Activer son réseau, c'est un point important. Pour ceux qui sont en emploi, ne pas oublier le CPF. Et d'ailleurs, dans
le CPF,
le compte professionnel de formation. N'oublions pas que certains salariés n'ont pas encore activé leur compte. Il y a à peu près la moitié qui l'ont activé. Donc, en principe, c'est encore jusqu'au 31 décembre. Pourquoi je dis ça? Parce que dans France Relance, vont être fléchés les emplois de demain. J'entendais mon voisin parler du numérique. Bien sûr, un certain nombre de formations, justement, de réorientation, vont être financées à 100%. Donc, il faudra s'orienter vers ces formations. Et puis, la recherche, c'est un vrai travail. On fait un calendrier, on se donne des temps, on n'attend pas sur son canapé, on recherche. Et puis, surtout, on se rend utile. Parce qu'un CV, il ne faut pas qu'il y ait des trous. Donc, soit on fait du bénévolat, soit on fait des certificats. Il y a plein d'universités françaises, américaines, où on peut faire des certificats, parfois gratuitement. On montre que l'on recherche. Et c'est ça qui est important. Et puis ne pas rester seul, ne pas rester isolé, rejoindre des associations pour les jeunes de cadres. Et puis il y a plein de réseaux.
On va en parler, on poursuit ce débat dans un tout petit instant sur Europe 1. Tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
Et on continue de parler sur Europe 1 de la chute historique du recrutement des cadres dans notre club des idées avec Bernard Vivier, Gilles Gâteau, Laurence Breton-Cueny. On a parlé de cette peur de l'avenir qui existe pour les salariés, qui existe aussi pour les entreprises, puisque l'INSEE publie aujourd'hui des chiffres qui montrent que le moral des chefs d'entreprise repart à la baisse, avec comme conséquence probable, évidemment, une baisse des investissements et donc des embauches. C'est un vrai problème. On a évoqué beaucoup les jeunes tout à l'heure avec vous, Laurence Breton-Cueny. Vous nous avez expliqué ce qu'il fallait faire, comment il fallait notamment rédiger son CV, s'occuper, ne pas désespérer. Je voudrais qu'on parle aussi, Bernard Vivier, des seniors. Imaginons que je suis un quadra, un quinca, je cherche du boulot. Qu'est-ce que je dois faire différemment aujourd'hui de ce que je faisais il y a quelques mois?
Alors, c'est une question également centrale. On a beaucoup parlé des jeunes cadres. On peut parler aussi des cadres plus âgés, plus anciens. Les entreprises, d'abord, essayent de bien garder leurs compétences aujourd'hui. Toutes les démarches sont là. Et l'esprit général de cette activité partielle de longue durée, de ce chômage partiel, c'est de dire plutôt que de payer des salariés au chômage, maintenons-les dans l'entreprise et aidons-les à rester dans l'entreprise. C'est un exercice qui ne peut pas durer une année complète, une entreprise, et les finances publiques ne le peuvent pas, mais c'est important. Pour répondre à votre question, la question des seniors âgés. Évidemment, la grande question fondamentale, profonde, c'est celle de la formation, de l'adaptation. Nous venons de relancer, c'était fin septembre, le 25 septembre exactement, la réunion, voire se démarrer la réunion du groupe paritaire de suivi de la formation professionnelle. En clair, patronat et syndicats se réunissent à nouveau pour voir comment organiser ces transitions professionnelles, comment faire le point avancé sur la formation professionnelle. C'est la clé. Et la formation professionnelle pour les cadres et les salariés seniors, c'est plus l'éducation nationale. Ce sont les branches professionnelles, ce sont les secteurs d'activité, c'est-à-dire des dispositifs gérés par ceux qui vivent le marché du travail, c'est-à-dire patronat et syndicats.
Mais est-ce que les règles du jeu pour trouver du travail en ces temps troublés ont changé? Par exemple, est-ce qu'on doit davantage encore utiliser, je ne sais pas, les réseaux sociaux dans cette période compliquée?
Alors, il faut utiliser, ça a été très, très bien dit par Laurence tout à l'heure, c'est pour les jeunes, et c'est vrai aussi pour les cadres plus expérimentés, une recherche d'emploi, c'est pas un métier, mais c'est un vrai travail. Et se faire accompagner, c'est important, c'est utile, c'est efficace, c'est vraiment le métier de la PEC. On parlait des jeunes diplômés, on a mis en place un plan d'action qu'on appelle Objectif Premier Emploi pour les accompagner 50 000 jeunes diplômés d'ici l'été 2021. On a des ateliers d'une demi-journée pour justement acquérir à la fois ces éléments de méthode, quelques codes qu'il faut connaître, se préparer, faire son plan d'action personnalisé pour savoir le mettre en œuvre et puis accompagner ceux des jeunes pour qui ce plan d'action, ce sera plus difficile.
Est-ce qu'on peut encore espérer trouver aujourd'hui un job, avec la situation actuelle, un job qui nous corresponde vraiment, qui nous plaise ?
Alors oui, surtout si
Laurence
vous avez fait la bonne orientation professionnelle, comme le disait tout à l'heure mon voisin, les commerciaux, on en a toujours besoin, surtout pour la reprise. On a besoin dans le digital, on cherche tout le temps, dans l'IT, on cherche tout le temps. Donc il y a des basiques. Ce qui est problématique, et on l'avait vu quand il y avait eu ces rapports du comité d'orientation économique, on manque déjà cruellement aujourd'hui de personnel. Et d'ailleurs, on le voit bien, puisqu'on a des personnes qui viennent un peu du monde entier dans nos entreprises pour pallier à ce manque. Donc il faut profiter, quand on a un temps comme ça, profiter pour avoir des réorientations. Et puis je pense que il y a ce que l'on aimerait faire et qui peut être un hobby à côté et ce qui peut être intéressant à faire. À un moment donné, il y a un principe de réalité. On peut s'épanouir dans un travail et puis avoir un hobby à côté. Donc, il y a toujours des emplois, même pour nous aujourd'hui, sur lesquels on n'arrive pas à trouver des candidats. Donc, il ne faut pas désespérer. Il faut se dire à un moment donné, finalement, je sais pas, j'ai fait un cursus scientifique, j'ai peut-être des possibilités d'embrayer sur autre chose.
De bifurquer, oui.
Voilà,
mais
ça,
alors,
c'est important.
Comme la situation est compliquée, on le dit beaucoup, est-ce que les recruteurs ne cherchent pas aujourd'hui des personnes qui soient immédiatement opérationnelles parce qu'on a, on a tout simplement un peu moins de temps de les former? Il faut que ça aille vite aujourd'hui.
Non, pas forcément. Non, que ce soit aujourd'hui dans une période plus paisible en termes de marché de l'emploi, les entreprises, elles préfèrent des bons potentiels, des personnes qui sauront s'adapter, que des personnes qui ont déjà les connaissances. Je vous donne un exemple. Une jeune fille qui s'appelle Mathilde, elle a 25 ans. Elle est licenciée économique au mois de mars cette année, c'est-à-dire en pleine catastrophe du confinement. Elle trouve un emploi par une autre entreprise. Commerce en ligne, c'est sa spécialité. Elle n'est pas encore tout à fait rodée à cela. L'entreprise la prend en plein période de confinement. Elle en est elle-même surprise. Un CDI, un contrat à durée indéterminée. Alors, elle est cadre, elle va avoir 4 mois de période d'essai. Mais à l'évidence, cette entreprise lui a dit « Mathilde, on vous prend parce que vous ne connaissez pas encore parfaitement nos us et coutumes, nos règles, nos fonctionnements et même le métier, mais on vous a ressenti comme ayant du potentiel. Et donc, on vous embauche, on vous met aussitôt en chômage partiel. » Elle a commencé à travailler un 1er mai en chômage partiel. Et en fait, elle est là. Les entreprises ont besoin d'engagement et les jeunes générations ont aussi besoin de s'engager.
Je vous vois hocher la tête, Laurence Breton-Queny. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec Bernard Vivier ?
Non, mais je suis d'accord. Moi, je trouve que maintenant, la compétence que l'on recherche en premier, c'est apprendre à apprendre. Parce qu'on va changer de métier au cours de la vie. Et là, il faut qu'on change cette philosophie à la française. Et d'ailleurs, c'est un peu le problème pour certains, de garder en tête le diplôme qu'on a eu à la sortie. Il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est fini, ça.
Il faut oublier son diplôme.
Oui. Bah, sauf bien sûr si on est médecin, infirmière, oui, etc. Sûr, donc évidemment. Là, il faut effectivement. Mais quand vous regardez dans les autres pays anglo-saxons, vous avez un diplôme qui vous donne accès. Et après, en fait, c'est les compétences que vous avez développées, cette agilité qui vous permettra de rebondir. Donc c'est ça aussi ce que l'on cherche, c'est quelqu'un qui a envie. Parce que ça, c'est important. Et puis, de toute façon, on a tous des plans d'intégration. Et certains d'entre nous ont des métiers qui n'existent même pas en formation.
Mais dans les pays anglo-saxons, sont des marchés plus flexibles, hein, Bernard Vivier.
Oui, avec Laurence Breton-Guenis, nous ne sommes pas du tout en opposition.
Non.
Les jeunes générations, s'il leur manque des bases, mais les entreprises les leur donneront. Vous savez, dans certains métiers, notamment dans les métiers de bouche, dans la grande distribution, les entreprises créent des écoles de bouchers, de charcutiers, de boulangers. Parce que si le garçon ou la fille a envie d'entrer dans le métier, eh bien, ça y est. Et quel que soit l'état de la formation initiale.
Je vais vous poser aussi une question qui me semble importante vu le contexte actuel, peut-être à vous Gilles Gâteau. Est-ce que, en quoi la généralisation progressive du télétravail change aujourd'hui la recherche d'emploi? Parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais c'est important.
Alors, c'est un très bon exemple pour illustrer le débat qu'on avait à l'instant sur les attentes des entreprises en matière de compétences et aussi sur les aspirations des cadres ou des jeunes diplômés qui rentrent sur le marché du travail. Le télétravail, il existait avant cette crise, mais de façon extrêmement limitée. Pour les cadres, il existait sous une autre forme, qui n'était pas le télétravail à proprement parler, mais qui était le fait de bosser à la maison sur son ordinateur ou son smartphone en dehors des heures du bureau.
Là, on est passé à une autre dimension.
Et là, on est passé à autre chose. C'est vraiment une organisation du travail qui change et qui impacte beaucoup les cadres, à la fois eux-mêmes en tant que salariés, 84% d'entre eux ont fait du télétravail pendant la période de confinement.
Mais est-ce que ça impacte la recherche d'emploi?
Et ça impacte en tout cas les compétences qui sont attendues d'un manager. Hein, les deux tiers des cadres sont des managers, des gens qui encadrent des équipes. Hein, et ce n'est pas exactement le même métier de manager des gens qui sont à distance, éclatés géographiquement, faire vivre un collectif de travail et une équipe, quand une partie de cette équipe est en télétravail, c'est important et c'est une compétence nouvelle que les cadres doivent développer et que les entreprises attendent.
Merci en tout cas à tous les trois d'être venus nous éclairer. Merci pour vos messages positifs également. On souhaite bon courage à tous ceux qui sont actuellement en recherche d'emploi. J'espère que ces conseils ce soir sur Europe 1 vous auront été utiles.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
Et c'est votre rendez-vous avant 20h, comme tous les soirs. On va tout de suite replonger ensemble dans les archives d'Europe 1.
On essaiera un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Le jour où, avec Marguerite Lefebvre. Bonsoir Marguerite.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
Et c'est donc un anniversaire que l'on fête aujourd'hui, celui d'un roi. Pelé à 80 ans, il est aujourd'hui encore, Marguerite, considéré comme le plus grand joueur de l'histoire du foot.
Oui, et s'il y avait besoin d'une preuve, eh bien je vous replonge quelques secondes en 1969. Le 19 novembre précisément, le club de Santos affronte Vasco de Gama. C'est un banal match de championnat au Brésil. Banal jusqu'à cette 78e minute, l'attaquant du Santos FC transforme un penalty. Camino Pelé, à Porto. Pelé vient alors de marquer son 1000e but. Le match n'est pas encore terminé que les 80 000 supporters du Maracana envahissent le terrain. Partout dans le Brésil, les fans exultent. Ils descendent dans les rues. Le délire est à peine descriptible. Pelé fait un tour d'honneur dans le stade. Il est même porté en triomphe par les joueurs des deux équipes. Ce jour-là, il dédie son but aux enfants pauvres du Brésil.
Et le symbole est fort, hein, car la star, le roi Pelé, est parti de rien.
Hein. 15 ans plus tôt, en effet, c'est encore sur les terrains vagues du quartier ouvrier de Bauru, près de Sao Paulo. Quetson Arantes do Nascimento joue avec ses copains. Une boule de chiffon en guise de ballon, l'école de l'agilité, de la technique. Celui que l'on surnomme déjà Pelé tape dans l'œil d'un agent. La suite, on la connaît. Appelé en équipe nationale à 17 ans, le visage encore poupin, Pelé remporte la première de ses trois Coupes du Monde. Il gagne surtout le cœur des Brésiliens et devient l'icône de toute une génération. Partout dans le monde, les clubs s'arrachent cette nouvelle coqueluche. Écoutez les mots et l'enthousiasme de Guy Cressant en 1971. Il est alors patron du PSG et va tenter de recruter Pelé.
Pelé est un homme, si vous voulez, dans un contexte absolument extraordinaire. Quand Pelé paraît, c'est un enthousiasme incroyable. C'est tout juste si on ne baiserait pas le trottoir derrière chacun de ses pas.
Et c'est vrai que jamais le foot n'avait connu pareille star. Et aujourd'hui encore, Marguerite, Pelé suscite l'admiration.
Et oui, partout dans le monde, dès qu'il se déplace, Pelé provoque des attroupements. Tout le monde veut voir ce roi sacré dans les années 60 et qui n'a jamais perdu sa couronne. Il est adulé par tous les fans de foot, y compris les plus jeunes. C'est d'ailleurs ce que Pelé lui-même racontait sur Europe 1 en 1996.
La plupart des enfants ne m'ont jamais vu jouer. Mais ils continuent à venir me voir, à me demander des conseils. C'est une énorme responsabilité, mais ça me rend très heureux.
Ces dernières années, Pelé a fait plusieurs séjours à l'hôpital. Sa santé fragile fait régulièrement trembler les Brésiliens. Mais Pelé, lui, veut rassurer tout le monde. Il veut prouver qu'il est encore en forme. Pour ses 80 ans, il s'est d'ailleurs déjà offert un cadeau où il est encore question de foot, mais cette fois en chanson. Pelé vient de sortir son premier titre. Plein de surprises, Pelé.
Il chante pas mal en plus. Hein.
Ben ouais.
Pour une première, c'est plutôt réussi.
Bon anniversaire au roi Pelé. Bon anniversaire et merci beaucoup à vous, Marguerite Lefebvre.
Europe 1, Isabelle Millet.
Et dans un instant sur Europe 1, on poursuit toujours en musique avec Émilie Mazoyer et son invité ce soir, Ayam. Je souhaite une très belle soirée, un très bon week-end. Lundi, dès 18h, vous retrouverez Julien Bugier. D'ici là, on écoute Le Monde Changer, bien sûr.